Eh bien, on a avec nous ce matin le docteur Danielle Dion. Elle est de la clinique de cardiologie Beauce-et-Chemin. Comment allez-vous, docteur?
Ça va très bien.
Je vais vous poser une question qui est complètement champ gauche. Je suis mieux d'avoir le diabète ou je suis mieux d'avoir le cholestérol?
Je pense que c'est mieux d'avoir ni l'un ni l'autre. Les deux
sont pas.
C'est
quoi la différence entre les deux au niveau de la santé?
Bien, les deux sont un facteur de risque de maladies cardiaques. Les deux sont des maladies prédominantes. Les deux vont un peu avec les habitudes de vie. Fait que je pense que c'est deux maladies qu'on espère ne pas avoir. Mm-hmm. Puis, tu sais, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu, comme on mentionnait, c'est le week-end du Super Bowl. Fait qu'on veut parler de cholestérol. Premièrement, le cholestérol, c'est une substance qui est essentielle à la vie.
Oui.
Le cholestérol nous aide à former des cellules, nous aide à faire des hormones. Puis, pourquoi un bébé naissant dans sa première année doit boire du lait maternel qui est très riche en gras, puis du lait qui est riche en gras? C'est parce qu'il en a besoin pour former ses cellules, il en a besoin pour faire son cerveau. Fait que le cholestérol est une substance essentielle à la vie.
Donc, il y a du bon puis du mauvais.
C'est ça. Mm-hmm. Puis, quand on veut comprendre un peu, parce que des fois, tu essaies d'expliquer ça aux patients, puis le cholestérol vient de l'alimentation pour à peu près 20 %
okay. Okay?
80 % du cholestérol est fabriqué par notre corps, vient de notre foie. Le problème de la dyslipidémie, c'est de faire comprendre qu'il y a du mauvais et du bon cholestérol, mais le cholestérol, c'est comme si tu mets de l'huile dans de l'eau. Ça se dissout pas ensemble.
Non.
OK? Ça ne forme pas ensemble. Mm-hmm. Donc, pour transporter du cholestérol, ça prend des transporteurs de cholestérol. Moi, j'explique ça. C'est comme un autobus.
OK? Okay.
Alors, le cholestérol du foie ou de l'alimentation embarque dans l'autobus, puis s'en va dans le sang, circule. Puis le LDL, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. C'est celui qui amène le gras dans les parois des artères.
OK.
Mm-hmm. En contrepartie,
il y en a qui sortent de l'autobus.
Il y en a qui sortent de l'autobus, ils se collent à la paroi, puis ils rentrent dans la paroi.
C'est ça.
OK? Fait que le transporteur.
Okay, il s'accroche de façon permanente.
C'est ça. Il s'ancre dans l'artère. En contrepartie, on a aussi des femmes de ménage des artères.
OK.
On appelle ça le HDL. Le HDL, c'est le bon cholestérol. Lui, il transporte le cholestérol qui est dans les artères ou dans les cellules et le ramène au foie pour être éliminé dans la bile.
OK.
Au Québec et un peu partout dans le monde, il y a des maladies génétiques qui font en sorte que dans les autobus qui circulent, à un moment donné, il y a un turnover qui doit se faire. Les vieilles autobus sont dégradés dans le foie, sont éliminés dans les intestins. Au Québec et dans plusieurs personnes ont une maladie génétique qui fait en sorte que les autobus ne sont pas dégradés.
Okay? Okay.
Donc, il s'accumule plein d'autobus qui transportent tout le mauvais cholestérol vers les artères. Puis, des fois, on a pas assez de femmes de ménage faire le ménage dans nos artères. Donc, le déséquilibre entre les deux fait en sorte qu'on va encrasser nos artères.
Et ça, c'est génétique?
En grande partie génétique. Il y a une partie qui est aussi alimentaire, mais une partie génétique, c'est comme parfois, il y a des patients, je ne comprends pas pourquoi je fais du cholestérol. Je suis maigre comme un pic, puis je suis végétarien. Mais c'est parce que génétiquement, au Québec, on a des gènes qui font en sorte qu'on n'a pas ce qu'il faut pour dégrader nos autobus qui transportent notre cholestérol.
Et est-ce qu'on peut détecter ça, que vous avez un gène?
Ça peut être détecté, mais souvent les familles qui sont porteurs du gène le savent. Sinon, on a des tests génétiques qu'on peut faire. Mais une personne en santé qui arrive dans notre bureau puis qui a un mauvais cholestérol en haut de 5, bien, on sait qu'il y a probablement une forte composante qui est génétique.
Comment on s'y prend pour justement détecter le niveau de cholestérol qu'on a?
C'est des prises de sang.
Des prises de sang
qui sont très simples, des prises de sang qui font partie d'un bilan de santé. Puis, tu sais, cette détection-là va permettre de faire des conseils, mais souvent, ça va mener à une diète hypolipidémiante. On va suggérer aux gens de manger moins gras, mais aussi souvent de prendre une médication qui n'a pas eu toujours bonne presse dans le monde, les statines ou autres produits. Mais c'est de cette façon-là qu'on est capable de rétablir l'équilibre, de désagréger nos vieux autobus pour plus qu'ils transportent le mauvais cholestérol dans nos artères.
Pourquoi donc, souvent, cette médication-là a eu mauvaise presse?
Bien, elle a eu mauvaise presse parce que beaucoup ont prôné l'alimentation. C'est sûr que l'alimentation, c'est extrêmement important, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Comme je vous l'ai mentionné, ça ne représente que 20 % de notre cholestérol, de notre production de cholestérol. 80 % vient de notre foie. Puis si on n'a pas un foie suffisamment équipé pour désagréger nos autobus, bien, on va en accumuler. Mm-hmm. Donc, souvent, ça va prendre la médication. On va tolérer un cholestérol un peu plus élevé chez une personne qui n'a pas de maladie cardiaque. On parle à ce moment-là de prévention primaire. Mais si une personne arrive dans notre bureau et elle vient de faire un infarctus, bien là, on va viser vraiment un mauvais cholestérol bas. On va viser un LDL en bas de 1,8, ce qui est atteignable avec les produits pharmaceutiques qu'on a présentement sur le marché. Puis, ça va être à ce moment-là de convaincre le patient des bienfaits du traitement pour éviter que ses artères s'encrassent avec du cholestérol.
Qu'est-ce qui fait que mon taux de cholestérol peut, à part la mauvaise alimentation, augmenter?
Bien, comme j'ai dit, le fait d'avoir d'être porteur d'un gène. Tu sais, dans une famille, souvent, ouais. on va dire, je vois un patient, il dit, bien, mon père est mort à 40 ans d'un infarctus, son frère à lui est mort à 50 ans, mon frère vient de faire un infarctus. Fait que, tu sais, on le voit, comme je vous ai dit la dernière fois, la génétique, c'est un des facteurs de risque les plus puissants, mais on va quand même pousser énormément la diète. On va suggérer aux gens de manger des produits faibles en gras. On va essayer de pousser les gens à adopter une diète un peu méditerranéenne. Où est-ce qu'on va favoriser les grains entiers, favoriser les fruits, les légumes, les poissons, un peu moins de viande rouge, puis un peu moins de produits transformés.
Quoi qu'il peut avoir du cholestérol dans du poisson.
Oui, mais c'est du bon gras qu'il y a dans certains
poissons.
C'est du bon gras, exact.
Okay. Bon, quelqu'un qui a, je vous parlais du diabète et du cholestérol.
Oui.
Diabète, souvent, on va nous dire, faites de l'exercice, ça va aider à combattre votre... Est-ce que faire de l'exercice, comme on en avait parlé la dernière fois, peut avoir un impact sur le cholestérol?
Oui, ça a un impact sur le cholestérol parce que faire baisser un mauvais cholestérol, c'est assez facile avec de la médication, mais faire monter un bon cholestérol, c'est souvent avec l'activité qu'on va le recommander. Il n'y a pas de médicament efficace pour faire monter le bon cholestérol. Donc, la femme de ménage, elle va s'activer plus, il va en avoir plus si on fait de l'exercice. Fait que oui, on recommande aux gens de faire beaucoup d'exercice pour faire monter leur bon cholestérol et aussi pour perdre du poids, pour avoir une meilleure pression. Alors, tout ça, c'est des effets bénéfices de l'activité physique.
Bon, perdre du poids, c'est souvent un exercice, sans mauvais jeu de mots, qui peut être compliqué pour certaines personnes. Là.
Oui. L'obésité, c'est une problématique très forte dans le monde présentement, surtout en Amérique du Nord. Les chercheurs ont défini récemment une nouvelle définition de l'obésité. Mais, tu sais, je comprends les gens qui sont pris avec un problème d'obésité. Des fois, ils ont tout essayé. Ils ont tous essayé les diètes. Ils en perdent, ils en reprennent plus, etc.
C'est ça.
Fait que, tu sais, moi, je trouve que le meilleur conseil que je peux donner aux patients pour perdre du poids, bien, des fois, c'est justement, si tu as tout essayé, là, bien, peut-être que le gros bon sens, c'est encore la meilleure chose à faire. Parce qu'une personne qui se sent trop privée va se répercuter après ça, va plus manger quand elle va avoir arrêté sa diète puis va reprendre plus de poids. Fait qu'il faut essayer de regarder...
Est-ce que c'est notre corps qui réagit, qui se révolte?
Bien, c'est notre cerveau qui se révolte, OK? Notre cerveau a un schéma de notre corps, OK? Puis le corps humain est fait pour garder l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il veut rester comme il est là.
Okay.
Alors, il a toujours eu cette image corporelle.
Fait que s'il est bien enrobé,
il
veut rester bien
enrobé. Le cerveau va toujours vouloir revenir à l'homéostasie. Fait que quand on perd du poids, tu sais, comme par exemple, ceux qui prennent des médicaments comme l'Ozempic, tu t'embarques pas là-dedans pour 3 mois. OK? Les produits pour perdre du poids, c'est des produits qu'il faut que tu t'embarques pour plusieurs années. Jusqu'à ce que ton cerveau ait établi ton schéma corporel comme étant différent. Après ça, tu vas pouvoir revenir à une alimentation saine, revenir à manger des repas raisonnables, puis garder ce schéma corporel.
Vous avez parlé d'un médicament aux Ozempic. Il y en a d'autres, là.
Oui, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres sur le marché. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pensée magique là-dedans? Je me souviens, moi, il y avait de la publicité à un moment donné pour des gens qui voulaient perdre du poids. Toutes sortes de guenilles qui sont apparues, entre autres des ceintures qui vibraient, puis des choses. Ozempic, est-ce qu'effectivement, c'est reconnu médicalement comme ayant un impact important pour la perte de poids?
Les produits qui sont des GLP-1, dans le fond, la famille de ce produit-là, ça fait en sorte que, oui, il y a un effet bénéfique sur le diabète, il y a un effet bénéfique sur les maladies cardiaques, il y a un effet bénéfique à long terme, mais c'est jamais juste une chose qui va nous aider. Donc, c'est oui, parfois, une personne qui a tout essayé, on va se rendre jusqu'à la médication, des fois, on va se rendre jusqu'à la chirurgie bariatrique, mais c'est un ensemble de facteurs. Puis, bien manger, faire des bons choix à l'épicerie. Des fois, je passe à l'épicerie, puis je vois que... Dans le rayon des fruits et légumes, il y a des gens qui n'en mettent pas dans leur panier d'épicerie. Peut-être qu'ils achètent ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, de toute façon, je pense que ce qui est important, c'est de faire des bons choix à l'épicerie, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des grains, des poissons avec des oméga-3, parce que l'oméga-3 va enlever l'inflammation au niveau des artères aussi.
Est-ce que je peux le voir sur l'étiquette, ça?
Ben, c'est-à-dire que vous allez le voir sur l'étiquette, mais aujourd'hui, on regarde les étiquettes pas mal. Hein? Ouais. On regarde tout ce qu'il y a dans le produit, puis on regarde ce qui est fait au Canada.
Parce que moi, si je prends, par exemple, c'est ce que je veux me faire pour souper ce soir, du poisson. Là.
Ouais.
Bon, du saumon, je sais c'est quoi, mais il y en a d'autres types de viande, d'autres types de poissons.
Bien, le saumon, le maquereau, la truite, les sardines, c'est très...
Mais est-ce qu'on va m'indiquer sur l'emballage?
Non,
on ne l'indiquera pas.
Non,
hein?
On n'indiquera pas. C'est vraiment des connaissances que vous allez acquérir, rencontrer des nutritionnistes. Mais tu sais, le problème, des fois, c'est qu'on trouve qu'on a moins de choix. Hein? C'est sûr que ceux qui restent en Gaspésie sont chanceux. Ils ont du poisson frais très, très disponible.
Du homard, c'est bon, ça?
Du homard, c'est très bon.
Okay.
T'sais, mais tu sais, quand on regarde là, les choix, je pense que si on doit essayer de se forcer à manger des poissons quelques fois par semaine, de la viande un petit peu moins, mais c'est pas défendu. Je pense qu'il faut se faire plaisir, couper dans les choses qui sont raisonnables, puis essayer de se mettre un objectif raisonnable, comme perdre 1 à 2 livres par mois.
Ouais.
Mais après un an, ça fait quand même
absolument
24 livres.
Ouais, c'est 25.
Alors, c'est de garder cette intention-là à long terme.
Et ne pas non plus... faire en sorte que ça ne devienne pas un exercice qui soit
pénible. C'est ça.
Fait
que pour le week-end du Super Bowl, ben, je vous encourage tout à vous faire plaisir quand même.
Oui, oui.
Mais sachez que les chicken wings, c'est pas toujours les meilleures choses pour le cholestérol.
Non, à tous les jours, c'est pas recommandé.
C'est ça.
Mais une fois par Super Bowl, ça arrive à toutes les années.
C'est correct.
C'est bien acceptable.
Ça serait de pas en manger à toutes les fins de semaine.
Pourtant si bon, surtout quand on se les fait maison.
Exact.
Merci beaucoup, docteur.
Parfait, ça m'a fait plaisir.
On s'arrête.
Bonne journée.
La chronique cardiologique vous a été présentée par Dr Daniel Dion de la clinique de cardiologie Beauce-et-Chemin, située à Saint-Georges. Spécialisée en soins cardiologiques, la clinique offre des services majoritairement couverts par la RAMQ. Dr Dion et son équipe chevronnée vous accueillent dans une clinique à la fine pointe de la technologie pour répondre à vos besoins en cardiologie. La clinique de cardiologie Beauce-et-Chemin, au cœur de votre santé. Bonjour la Beauce, avec Gaston Clou.